Donc je vais rappeler quelques points importants. Tout d'abord, Jésus, il s'adresse à une foule compacte qui vient pour l'écouter, mais aussi à ses disciples qui l'entourent. Le discours s'adresse directement et en priorité au cœur, c'est ce qu'on avait rappelé la dernière fois. Il dit « Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Maître, juste, saint et véritable, c'est l'Éternel. Il n'y a pas d'autre. Il veut vous conduire dans l'amour et la vérité. Il vous a ouvert les portes du royaume des cieux. Il œuvre pour votre bonheur. Alors pourquoi chercher d'autres dieux qui vont vous asservir, vous faire du mal et vous entraîner vers la mort ? Pourquoi servir Mammon, le dieu de l'argent, qui va vous rendre esclaves et vous éloigner du bonheur ? Jésus leur dit, alors, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ensemble. Ce n'est pas possible. Et c'est devant un choix crucial de cœur que Jésus place ses auditeurs. Il leur dit, choisissez de servir Dieu et Dieu seul. Voilà ce qu'il leur dit. Puis il leur dit encore, vous croyez être heureux en servant l'argent ? Mais vous savez que l'argent est un maître insatiable et terrible qui laisse ses enfants dans toujours plus d'insatisfaction. Dieu, lui, connaît tous vos besoins. Il sait ce qui est bon pour vous. Vous savez qu'il est Adonai Jiré, le Dieu qui donne à chacun selon ses besoins. C'est le Dieu qui pourvoit. Et leur donnant l'image des oiseaux qu'il nourrit et des lys des champs qu'il revêt des plus belles corolles, il leur dit « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux aux yeux de Dieu ?» Voilà, on vaut quand même plus que les oiseaux et que les fleurs aux yeux de Dieu, j'espère. Dans cette première partie, nous avons vu combien Jésus invite ses auditeurs à faire un choix crucial, décisif, définitif entre Dieu et le monde. Servir Dieu seul, c'est être heureux et béni par Dieu. Et là, je reprends un passage d'un psaume d'Asaph qui dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, dit Asaph dans le psaume 81, verset 14, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment. Je le rassasirai du miel du rocher. » Alors, ce matin, nous allons étudier la fin de ce très bel enseignement de Jésus, un enseignement qui me paraît simple, clair et pratique, qui s'adresse aussi à chacun de nous ce matin. Et je vais prier, si vous le voulez bien, pour que le Saint-Esprit ouvre grand les oreilles de chacun de nos cœurs. Parce que Léa a prié pour les yeux, moi je vais prier pour les oreilles. Seigneur mon Dieu, c'est vrai Seigneur, tu es venu sur la montagne et tu as enseigné les foules, tu as enseigné tes disciples et tu leur as apporté des révélations merveilleuses, Seigneur, sur le royaume de Dieu et sa justice. Ce matin, Seigneur, parle-nous à chacun. Donne-nous vraiment, Seigneur, cet enseignement que tu as donné sur la montagne et que nos cœurs, Seigneur, soient remplis de merveilles et que nos oreilles s'ouvrent, Seigneur, à ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, lorsque j'ai commencé à préparer donc ce message là pour ce matin, je ne pensais pas du tout parler de ce thème, du sermon sur la montagne. Mais je voulais parler du Saint-Esprit. Et honnêtement, malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à commencer le message, la prédication. Je n'y arrivais pas. Et j'étais aux prises avec de nombreux soucis, j'en parlerai tout à l'heure, et de nombreuses inquiétudes et des préoccupations multiples. Et embourbé dans ce fatras, j'ai crié à Dieu, parce que ça m'arrive souvent de crier à Dieu quand ça ne va pas, je crie à Dieu. « Seigneur, je ne m'en sors pas. S'il te plaît, aide-moi. J'y arrive pas. » Alors m'est venue cette pensée biblique, franchement, tout de suite, c'est « Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Voilà. Alors, pour les personnes les plus anciennes dans l'Assemblée, eh bien... ils vont comprendre. Moi, je me suis écrié tel l'inspecteur Bourrel dans les 5 dernières minutes, mais c'est bien sûr, c'est évident. Hein? Et je venais de comprendre donc le message de Jésus, et voilà pourquoi je souhaite vous partager ce message ce matin. Vous savez que dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17, le Seigneur dit au verset 15, en parlant de nous, ses enfants, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. » Ce que dit Jésus est vrai, mais c'est en même temps terriblement inquiétant. Parce que nous ne sommes plus du monde, certes, nous n'avons plus le même esprit que ce monde, et pourtant, nous devons vivre dans ce monde, et nous devons vivre parmi ses principes et ses lois. Et certains ont eu la tentation de s'extraire de ce monde en vivant dans des communautés. Mais Jésus, il a bien dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, ne les enlève pas du monde, mais de les préserver du mal. » Voilà, ce que Dieu va faire pour nous, c'est nous préserver du mal. Ce monde spirituellement pollué génère des besoins, car notre corps a des besoins basiques. Hein, on s'en rend compte tous les jours. Hein. Manger, boire, dormir, mais aussi besoin de se vêtir, d'avoir un toit, mais aussi des besoins relationnels, avoir un vis-à-vis, un conjoint, besoin d'être écouté, entendu, aimé, et puis bien d'autres encore. Hein. Comme tous ces besoins, nous devons les satisfaire, et bien ça devient problématique, car on n'a pas de baguette magique pour les réaliser. Depuis la chute de l'homme, dans Genèse 3, l'homme qui n'a plus le secours de Dieu doit subvenir à ses besoins, au milieu de beaucoup de souffrances. Et là, je vais demander la deuxième document. Dans Genèse 3,16, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec souffrance. » Le besoin et la joie d'avoir une descendance, des enfants, se fait au milieu des souffrances et des inquiétudes. Qui ne s'est pas inquiété pour ses enfants? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La joie d'avoir un compagnon, une compagne, mais tous les conflits, les souffrances relationnelles que cela engendre. Et je regarde Wardia et on rigole tous les deux, parce que c'est vrai, on a aussi des soucis relationnels des fois. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture du sol chaque jour de ta vie. Le besoin de vivre, de se nourrir, exige de travailler. Mais le travail n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis vous savez, parfois au travail, il y a peu de gratitude. Le travail n'est pas très gratifiant et souvent c'est très très fatigant. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Chaque jour, nous sommes pris dans des tourments de la vie, les soucis quotidiens et les découragements de toutes sortes. Et il y a ce passage qui est marqué dans l'Ecclésiaste, parce que l'Ecclésiaste a beaucoup réfléchi sur la vie et il dit « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Voilà. Et puis au bout du chemin, il y a la mort, avec encore la peur de souffrir. Frères, sœurs, aucun de nos besoins dans ce monde n'est assuré. Nous devons nous battre dans la douleur et la peine, et cela crée forcément en nous des blessures, des soucis et des inquiétudes. Ce serait bien si on avait tout et qu'on n'ait pas de soucis. En tant que chrétien, bien sûr, qu'on a toutes et tous envie de chercher Dieu, de passer du temps à prier, à lire et méditer la parole de Dieu chaque jour, chercher sa volonté chaque matin, évangéliser, œuvrer pour le Seigneur. Mais on fait partie du monde. Et le monde nous donne le plus souvent. Ainsi, le matin, moi, je me lève le plus tard possible. Parce que, c'est vrai, je sais pas pourquoi, je me lève fatigué. Et puis tout s'enchaîne. Je suis absorbé par le tourbillon infernal de la vie qui laisse, hélas, très peu de temps à consacrer à Dieu. Je suis aussi pris dans les soucis de la vie, hein, comme vous, hein, je suppose. Il faut s'occuper des papiers, payer les factures et gérer les imprévus. Papa, tu peux m'aider à faire mes devoirs? Tu peux m'emmener chez Mirland et Sania? Papa, tu peux venir me chercher à la gare? Etc. Et puis, il y a tous les soucis que procure la famille élargie, les collègues et les voisins, les soucis de santé et les soucis matériels. Et nous sommes, comme disent les jeunes, entrés dans un combat de ouf. qui laisse peu de temps et d'énergie à consacrer à Dieu. Alors, comme dirait Paul, d'un côté, moi je voudrais bien passer du temps avec Dieu, mais je constate qu'en réalité, je suis totalement happé par cette vie qui prend tout mon temps, toute mon énergie, et cela me culpabilise profondément. Est-ce que vous ressentez, vous, cette culpabilité? Alors, la culpabilité, c'est quoi? C'est quoi la culpabilité? Ça, c'est le suivant. La culpabilité, c'est un sentiment très fort, très profond, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas faire ce qui est bien. Et le chrétien dont le cœur appartient à Dieu, qui aime profondément son Seigneur, eh bien, il est très sensible à ce sentiment, car il se culpabilise toujours de ne pas assez aimer Dieu, de ne pas en faire assez pour lui, de n'être pas assez bien. En réalité, d'être un chrétien trop tiède, trop mièvre, alors est-ce bien de se laisser culpabiliser? C'est ce que l'on va essayer de découvrir à travers deux sortes de culpabilité. Alors, moi, je pense qu'il y a la bonne culpabilité, mais aussi la mauvaise culpabilité. La bonne culpabilité, c'est celle qui vient de Dieu. Lorsque je connais la volonté de Dieu, par exemple, et que soit je ne la fais pas ou je m'y oppose, eh bien, je ressens un profond sentiment de culpabilité. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Jonas, à qui Dieu ordonne de se rendre à Ninive, la grande, et de crier contre elle, car sa méchanceté s'est élevée jusqu'à Dieu. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il fait l'inverse. Ici, la volonté de Dieu, elle est clairement identifiée. Et Jonas n'obéit pas. Alors cela déplut fortement à Dieu, qui éprouva Jonas jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il obéisse. « Prenez-moi, dit Jonas au marin qui l'accompagnait, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Voilà, il sent la culpabilité qui vient de Dieu. Le chrétien qui s'oppose à la volonté de Dieu éprouve de la culpabilité sous la forme d'une grande tristesse. C'est l'Esprit Saint qui souffre en lui. Il attriste l'Esprit de Dieu. David, après sa désobéissance, l'exprimait ainsi, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut considérer comme une bonne culpabilité qui nous aide à changer. Maintenant, il y a une mauvaise culpabilité. C'est celle qui vient de la chair et celle qui vient de l'accusateur. Alors, en réalité, vous savez, rien n'est plus facile que de culpabiliser un chrétien. Si je vous dis, par exemple, vous priez pas assez, forcément, on ne prie pas assez. Même si on priait toute la journée, on ne prierait pas assez. Tu ne pries pas assez, tu ne lis pas assez la Bible. J'en lis 3 passages par jour. Oui, mais c'est pas assez, lis-en 5. Tu ne pries pas assez, tu ne lis pas assez, tu n'évangélises pas assez, etc. Ça nous culpabilise. Mais qui définit ce qui est assez et pas assez? Et puis, est-ce la quantité ou la qualité que Dieu recherche? Comme le chrétien est un homme loin d'être parfait, eh bien on peut le culpabiliser sur tout, absolument tout. Dans cet exercice, Satan ne se gêne pas en pointant nos faiblesses et nos insuffisances. Parce que Satan, c'est lui qui accuse. Apocalypse 12:10, il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, nuit et jour. Voilà, il nous accuse sans arrêt. Et puis, il y a aussi notre nature charnelle, qui nous culpabilise d'en faire trop pour Dieu. C'est vrai, t'en fais trop pour Dieu, franchement. Comme notre chair n'a pas été régénérée, elle souffre lorsque nous passons du temps avec lui. Vous voyez que dans le domaine de la culpabilité, il faut savoir en prendre et en laisser. Et c'est pour cela que Paul nous encourage à discerner les choses les meilleures. Philippiens 1:10, que je vous laisserai lire. Alors, que faire? Suivant, document suivant. Alors, considérons ce qui se passe dans nos vies à vue humaine, c'est-à-dire ce que nous vivons et ressentons. Alors, nous l'avons dit, notre vie oscille entre nos besoins, nos soucis et la recherche du royaume de Dieu. Voilà, ça oscille entre les deux. Alors, d'un côté, si moi je me mets à chercher en priorité Dieu, sa volonté, sa justice, si je m'investis totalement en Christ, Eh bien là, je me rassure totalement vis-à-vis de Dieu, je suis tranquille avec lui, je n'ai pas de souci. Mais je ressens un profond sentiment de culpabilité par rapport à ma vie, car j'ai le sentiment de négliger ma responsabilité par rapport à ma famille, au travail, tout ça, que je néglige. Hein. Mais d'un autre côté, si je m'occupe de mes besoins et de mes soucis en priorité, eh bien je suis rassuré dans mon être responsable. Je m'occupe bien de ma famille, je m'occupe de mon travail, je m'occupe de mes soucis, mais j'éprouve un très profond sentiment de culpabilité par rapport à Dieu que je néglige. Je ne m'occupe pas de lui, je ne prie pas, je ne lis pas la Bible, etc. Alors, dans notre raisonnement humain, l'idéal serait de consacrer un temps égal pour Dieu et pour nos soucis. Voilà, on va essayer de partager entre les deux. Mais moi, je pense que ce serait une très, très grave erreur. Pourquoi ? Parce que ce serait une stratégie qui ne correspondrait nullement à la solution proposée par Jésus. Franchement, frères et sœurs, c'est une grande illusion de penser qu'on peut se partager entre Dieu et nos besoins, nos soucis. Parce que même si on y parvenait, naîtrait chez nous un nouveau sentiment. Et moi, je pense que chaque fois qu'on a fait ça, on avait ce sentiment de ras-le-bol, hein, encore appelé overdose, et caractérisé par ces mots, ben, « j'en peux plus, je suis crevé, je suis en burn-out ». Je ne peux pas être en même temps au four et au moulin. Je ne peux pas en même temps servir Dieu, puis en même temps m'occuper du reste, donc j'en peux plus. Voilà. Et avec comme conséquence, ben quoi, c'est perdre sa joie, travailler par obligation, il faut que je fasse ça, et j'en peux plus. Alors comment faire? Comment se sortir de ce dilemme? Frères, sœurs, c'est là qu'intervient toute la sagesse et l'intelligence spirituelle de Jésus, qui, notez-le, ne juge ni ne culpabilise personne. Lorsqu'il apporte la solution à notre problème, c'est « chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Voilà, consacrez-vous à ça. « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Alors, ce beau verset de Jésus a été parfois bien mal interprété par des personnes qui se sont engagées dans des voies qui mènent à des situations graves et inextricables. Ce sont toutes celles et ceux qui, par exemple, ont compris qu'il fallait tout donner pour Dieu et le royaume, et que Dieu allait automatiquement s'occuper de tout le reste. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Hein. Je donne tout pour Dieu, toute ma fortune, tout mon argent, etc., et Dieu s'occupera de payer mes factures. Est-ce que c'est sage ? Est-ce que c'est sage ? Moi, je l'ai fait un moment, et c'était idiot. C'était idiot. Je m'investis à fond dans mon ministère et Dieu s'occupera de ma famille et de mes enfants. Et ça fait des drames. Ça a fait des drames dans des ministères chrétiens. Puisque nous sommes entièrement à Dieu, nous ne prenons plus nos médicaments car Dieu prend soin de nous. Vous voyez ? Ces exemples vrais ont fait non seulement des dégâts dans la vie des personnes qui ont ainsi agi, mais ils ont apporté un grave contre-témoignage dans leur vie chrétienne. Alors, quand Jésus dit « chercher premièrement », il exprime clairement un ordre. Il dit « le plus important dans la vie, c'est Dieu ». C'est vraiment le plus important. Chercher sa volonté, pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu, voilà la priorité. Ensuite, il est important de s'occuper de sa vie afin d'être un chrétien responsable et de montrer au monde un beau témoignage de vie. Alors vous voyez que nous sommes loin d'un abandon de responsabilité, hein. Je ne m'occupe pas de ma vie. Et ça s'apparente souvent à une fuite. Dieu est notre priorité car il est notre guide, notre boussole et notre oxygène. Sans lui, rien n'est spirituellement possible. On ne peut rien construire de stable. Vous voyez, c'est un peu comme si on voulait construire, par exemple, un meuble IKEA, mais sans le mode d'emploi. Hein ? Moi, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Si on n'utilise pas d'outils, vous voulez aller visiter quelqu'un, vous n'avez pas l'adresse. Ça ne sert à rien, franchement. Vous allez tourner en rond. Car sans moi, rappelle Jésus, vous ne pouvez rien faire. Il est donc important, dès lors, d'avoir cette démarche. Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Dans mes activités, mes choix, mes relations, mon travail, bref, que dans tout ce que je fais. Voilà, il faut que tu sois là dans tout ce que je fais. En réalité, qu'est-ce que Dieu attend vraiment de nous ? que nous passions tout notre temps à prier, lire la parole, faire des activités d'église, alors qu'il sait que notre temps est limité, ou alors que notre cœur lui appartienne entièrement. Voilà, que notre cœur lui appartienne entièrement. Alors je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de passer du temps à prier, à lire la parole et faire toutes les activités d'église. Vous avez bien compris ça, hein ? Mais Dieu attend autre chose de nous. Vous savez, les pharisiens, ils se consacraient beaucoup à Dieu, mais pourtant leur cœur ne le connaissait pas. Un cœur qui appartient à Dieu est un cœur qui a clairement choisi de servir Dieu seul, qui a fait de lui le seul maître de sa vie, qui en a fait son seul Seigneur. C'est un cœur qui a fait sienne ces paroles de Jérémie 10, 23. Et là, je suis ce qu'a dit ce matin Léa. Hein. « Je le sais, ô Éternel, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Ce n'est pas à nous à diriger nos pas, c'est à Dieu à les diriger. Suivant. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Ben, c'est entrer dans la sphère d'action de Dieu avec un cœur entièrement offert, pour se placer sous sa seule autorité, mais aussi pratiquer la justice de Dieu. C'est de faire avec l'aide du Saint-Esprit tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ça la justice, faire vraiment ce que Dieu a considéré comme juste. Pour cela, Jésus nous invite chacune, chacun à entrer dans une relation d'unité avec lui, dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Jean 17, 21, « Père, tu es en moi comme je suis en toi, dit Jésus. Qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est cette relation unitaire que nous cherchons dans tous les domaines de notre vie avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et les trois veulent être présents chaque jour dans toutes nos activités. Matthieu 28, 20, c'est comme ça qu'il faut le considérer. « Voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis présent avec vous tous les jours. » Plutôt que passer du temps dans la journée à chercher Dieu, il est préférable de vivre Dieu, de le vivre tous les jours, dans toutes les activités de la journée, en cherchant à faire toute sa volonté. « Voilà, Seigneur, je veux faire ta volonté. » Alors concrètement, dans le quotidien de nos vies, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ben, quand nous nous levons avec le Seigneur, car la nuit même, notre cœur se confie en lui. Qu'est-ce que dit le roi David ? Dans le psaume 16, 7, il dit « La nuit même, mon cœur m'exhorte, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Même la nuit, il est avec Dieu. » Voyez ? Dès le matin, nous lui renouvelons notre appartenance et notre amour. Psaume 16, 2, « Je dis à Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Nous lui remettons notre journée et nous invoquons sa protection. Le psaume 16, 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Vous voyez, personnellement, moi, quand je vais en voiture le matin au travail, eh bien, je remets ma journée au Seigneur. Je lui remets ma famille, je me remets sous sa protection, je lui remets mon couple, l'Église, mon ministère, mon travail, mon témoignage, pour que Dieu garde, protège et bénisse. Voilà, c'est ça que je fais. Nous lui demandons qu'il nous parle par sa parole. Moi, personnellement, je pense qu'il est bien d'avoir lu au moins une fois la Bible en son entier dans sa vie. Bon, je pense que c'est bien de l'avoir fait au moins une fois, pour avoir une vue d'ensemble de sa volonté et de la lire aussi chaque jour. Je pense que ça, c'est bien. Par exemple, le psaume 119 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Personnellement, je lui demande chaque matin l'amour, la sagesse et l'intelligence. Je demande ça à Dieu, parce que je ne suis pas... si je demande, c'est que je ne sais pas. Je ne suis pas amour, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas sage. Donc c'est pour ça que je lui demande. Psaume 119, verset 34, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Je lui demande qu'il m'accompagne dans toutes mes activités, qu'il me donne la joie de le servir, que je sois un bon témoignage là où je me trouve. Psaume 5 de David, « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Je lui demande de mettre mon cœur en paix, parce qu'on est dans un monde tourmenté, hein, et qu'il oriente toutes mes décisions. Voilà, c'est toi, Seigneur, qui vas m'aider à faire les choses. Moi, je ne sais pas, je sais pas. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, Proverbe 16, 3, et tes projets réussiront. » Comme vous le voyez, c'est l'unité spirituelle avec le Seigneur qui fait notre force. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est mettre Dieu en premier dans sa vie pour que, ne faisant qu'un avec lui, nous travaillions en unité parfaite pour sa gloire. On l'a chanté, hein, l'unité, hein. On l'a demandé. Mais lorsque le quotidien de nos vies s'obscurcit par les nuages noirs de nos soucis, eh bien, moi je vous assure que chercher le royaume et la justice de Dieu en premier, ça devient bien problématique, hein. Vous savez, la dernière fois, on a, avec Solène, vidé la piscine du jardin, et puis on l'a remplie de 1500 litres d'eau. Eh bien, elle fuit. Et j'ai une pression sur mes épaules. Comment vous voulez que je fasse un message quand il y a 1500 litres d'eau qui sont en train de fuir, hein ? Je me suis inscrit avec Wardia pour un séminaire chrétien à Lyon, et voilà que j'apprends qu'on me refuse mes vacances. Oh, ben, j'ai envie de faire une prédication, moi, pendant ce temps-là. J'oublie complètement, mais complètement, de faire mon contrôle technique de voiture. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Et pendant une semaine, je suis sans contrôle technique et je me dis, on va m'arrêter, ça va être terrible. En plus, je suis responsable d'église, vous imaginez? Bon, alors, là c'est la tension complète. Et puis, viennent s'ajouter toute une foule de soucis auxquels je ne m'attendais pas. C'est en fait la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Alors, je ne sais pas quelle est votre réaction devant l'adversité, mais moi, je me mets aussitôt en mode plainte et lamentation. J'y arrive pas, Seigneur. Comment veux-tu que je me consacre au message avec tous ces problèmes qui m'envahissent, hein? Si je ne les règle pas, qui va le faire à ma place? Ben, c'est vrai, il n'y a personne qui va m'aider pour m'en sortir. Frères, sœurs, non seulement les soucis accablent nos quotidiens, mais ils envahissent nos pensées. Alors je crie, Seigneur, aide-moi, viens s'il te plaît à mon secours. J'arrête pas de l'appeler, hein. Et j'entends, franchement j'entends, continue à chercher le royaume et la justice de Dieu et je t'aiderai à trouver une solution à tes problèmes. Voilà la pensée très forte qui se répand dans mon cœur. Alors, si je veux m'en sortir, je dois faire le bon choix. Alors, le bon choix, c'est de choisir de faire confiance à Dieu. Je me consacre à la prédication, au message entièrement, et je lui confie mes problèmes. Hein, notez que je ne les abandonne pas. Je lui confie. Les soucis n'avaient pas disparu, hein, mais j'avais acquis l'assurance que Dieu allait m'aider. Alors, je me suis mis à travailler sur le message, hein, d'un esprit un peu plus libéré. Alors que rien n'était solutionné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la semaine suivante, mon beau-frère est passé à la maison, je lui ai parlé de mes problèmes de piscine, et tout de suite, il a réparé la fuite. C'est incroyable! Pour le séminaire chrétien à Lyon, tout s'est arrangé, car aucun de mes collègues n'était intéressé par la date que j'avais réservée. Incroyable! Et puis là, j'ai eu aucun problème en conduisant sans... Je vous invite pas à le faire, hein, mais en conduisant sans le contrôle technique, tout s'est bien passé. Incroyable. Jésus avait dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il a tenu promesse, il a transformé mes inquiétudes en confiance, il a donné, à la place de l'impossible, il a donné des solutions. Par ces paroles de Jésus, par ces promesses respectées, Jésus nous montre combien Dieu aime ses enfants et prend soin d'eux. Ésaïe 49, 14, 15. Si on disait, mais l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait? Eh bien, moi, dit l'Éternel, je ne l'oublierai point. Mais aussi, lorsque Dieu promet, s'engage, il ne se renie jamais. Et suivante. Romains 4, 21, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et Jésus conclut cette partie du sermon par ces mots, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Pour certains chrétiens, l'inquiétude est un péché. J'ai déjà entendu ça, moi, ici. L'inquiétude, c'est un péché. Et il justifie cela par le fait que Jésus nous a dit « Ne vous inquiétez pas ». Donc si Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas », et si on s'inquiète, c'est qu'on pêche. Bien, je vous dis tout de suite que je ne partage pas entièrement cet avis. Moi, je ne partage pas ça. Pourquoi? C'est simple, l'inquiétude est une réaction humaine normale face à un danger ou à un manque. Alors maintenant, si on commence à s'inquiéter tout le temps, c'est vrai que c'est gênant. Mais l'inquiétude et la peur sont des réactions primaires. Alors, ici, que veut nous dire Jésus ? Eh bien, Jésus se place ici clairement dans un contexte entièrement spirituel. Frères, sœurs, en réalité, celui qui a raison de s'inquiéter vraiment, ben c'est bien celui qui n'a pas pris Dieu pour soutien, hein, ou pour appui. Mais l'homme qui s'appuie sur son Dieu n'a rien à craindre. « Je sais déjà, affirme David dans le psaume 20, que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel, tu nous exauces quand nous t'invoquons. » Qu'est-ce que je vais devenir ? Que va-t-il m'arriver ? Ce sont des inquiétudes que l'on peut légitimement avoir. Pour bien comprendre la pensée de Jésus, lisons l'épisode de Matthieu 8, 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Incroyable ! Franchement, Jésus n'a pas vraiment un comportement humain. N'importe quel être humain normalement constitué, placé dans les mêmes conditions, serait paniqué ou au moins inquiet. Or Jésus, lui, il dort. On peut quand même penser que Jésus est bien conscient du danger. Pourtant, il dort tranquille, confiant que son heure n'est pas venue et que le Père le protège. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Nous retrouvons chez les disciples une réaction plus proche de celle que nous connaissons, à savoir la panique. Moi, j'aurais toujours été paniqué à leur place. Hein. Il leur dit alors « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Jésus n'est pas dans le déni, il se situe dans une confiance totale, dans la foi absolue. Il ne peut rien arriver, peut rien se passer, car je suis sous la protection de Dieu. Quelqu'un a fait la prière tout à l'heure du psaume 27 de David. L'Éternel est la lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Jésus nous dit que chaque jour nous devons faire confiance à Dieu. Il nous donne chaque jour ce que nous avons besoin, à l'image du peuple d'Israël qu'il nourrissait dans le désert. Psaume 78, verset 24. Il ouvrit les portes des cieux, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Dieu pourvoit au jour le jour. Qu'avons-nous besoin de nous soucier de ce qui se passera demain ? Demain sera un autre jour que Dieu visitera aussi de sa présence. Psaume 5, verset 4. « Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, dit David. » Oui, frères et sœurs, cela nous permet de renouveler notre confiance à Dieu chaque matin, car Dieu est présent et pourvoit dès l'aurore. Dans le psaume 65 de David, il est écrit « Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Lui, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Croyez-vous, frères et sœurs, que le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour vous ? Est-ce que vous croyez que le ruisseau est plein d'eau ? Ou est-ce que vous pensez que le ruisseau est sec et tari ? Il n'y a rien dedans. Oui, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplatissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alors les plaines du désert sont abreuvées et tes collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et tes vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Voyez, quand on fait confiance à Dieu, Dieu nous bénit. Dieu apporte vraiment son flot d'amour. Frères, sœurs, avons-nous raison de nous inquiéter ? Est-ce qu'on a raison vraiment de s'inquiéter ? Dans un sage trait d'humour dont il a le secret, Jésus pose cette ultime question. Il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Question pertinente, hein, quand nous savons aujourd'hui que le stress est un facteur de risque important des maladies cardiaques. Plus on se stresse, plus on a des chances de mourir tôt. Chercher le royaume de Dieu en premier et faire confiance à Dieu, voilà, je crois, le véritable secret du bonheur. Et je terminerai par ce psaume, psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Voilà, cherchez le royaume de Dieu et sa justice continuellement et en premier. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Voilà. Terminé là pour la prédication. Je vous propose maintenant d'avoir un moment de pensée aussi important pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. C'est le moment du repas du Seigneur, de la Sainte Cène que nous allons partager, si vous le voulez.